Ok, shalom à tous, on continue le shiurim sur Purim. On a expliqué comme quoi il y avait un rapport très étroit entre la Géoula de Purim, la Géoula qui s'est passée à notre époque, le retour d'Israël sur sa terre après 2000 ans d'histoire. Rien n'est au hasard, Akadosh Baruch Hu ramène l'histoire. Histoire, le Rav Kook avait l'habitude de dire l'histoire. En hébreu, on aurait dû dire toladot. Les toladot, les engendrements, c'est comme ça qu'on appelle l'histoire. Toldot Israël, les engendrements d'Israël, c'est comme ça qu'on parle de l'histoire d'Israël. Mais le Rav Kook, pour reprendre l'expression louazit, c'est-à-dire pour reprendre l'expression influencée des langues étrangères, en hébreu moderne, par exemple, on dit historia. Et historia, on l'écrit avec un tête. Tous les mots empruntés du langage général, du langage européen, anglais, etc., on doit utiliser quand il y a la lettre te, t, on met un tête. Par exemple, téléphone, c'est écrit pas avec tav. Alors que téléphone et tefilin et téléphone, c'est très proche. Malgré tout, on met un tête parce que pour montrer que ça vient pas de l'hébreu de la Torah, là ça vient d'un langage des autres nations. C'est-à-dire, donc historia, on doit l'écrire avec un tête. On doit écrire historia avec un tête. Or, on voit que le Rav Kook écrivait tout le temps, alors qu'il écrivait un hébreu, c'était avant la création de l'État d'Israël. C'était à la même époque que Ben Yehuda, celui qui a refait vivre la langue hébreu du Tanakh, il a refait vivre pour que transformer ça en hébreu moderne. C'était Eliezer Ben Yehuda, c'était la même époque que le Rav Kook. Et même le Rav Kook recevait des lettres de Eliezer Ben Yehuda pour savoir comment dire tel et tel mot. Et le Rav Kook lui a dit, fais attention, de refaire revivre la langue hébraïque, c'est très bien. Mais ce qui est encore plus important, c'est le contenu de la langue hébraïque. Si tu fais ici, tu prends la culture avec les mots en hébreu, mais c'est une culture de Goïm, alors on n'a rien gagné. Nous, on veut les mots hébreux avec la culture et la pensée et le contenu hébreu. C'est ça que le Rav Kook essaie de faire. Et le Rav Kook écrivait Historia avec Tav pour bien exprimer que Historia, c'est Esther Ya. Le cachet, la face cachée. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il se cache dans l'histoire. Et nous, on a une mitzvah de la Torah qui dit Binu Shnot Dor Vador. Dans la paracha de Hazinu, on dit Binu, contempler les générations et les générations, c'est-à-dire les années des générations, c'est-à-dire les événements historiques. Il faut étudier les événements historiques. C'est une chose qu'on n'a pas fait pendant 2000 ans, parce qu'on n'avait pas d'histoire, on n'avait pas d'histoire du Ham Israël, on était loin de nos terres. Loin de nos terres, on ne peut pas avoir une histoire. Le Tanakh s'est arrêté quand le Ham Israël quitte Eretz Israël. Mais quand le Ham Israël revient, on voit que dans le monde entier, les événements historiques qui se déroulent sont directement en rapport avec l'avènement messianique, c'est-à-dire le retour d'Israël sur sa terre. On a fait le parallèle très 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 étroit, et c'est pas de nous, c'est de grands rabbanim qui ont fait déjà cet appel, qu'il y a un rapport entre Hatzarat Koresh, la déclaration de Cyrus pour appeler les juifs, après les 70 ans d'exil de Babel, à revenir en Israël pour reconstruire le second temple, et avec Hatzarat Balfour, la déclaration de Balfour, qui appelle aussi, en 1917, juste avant la fin de la première guerre mondiale, à rappeler les juifs à remonter en Eretz Israël pour reconstruire le temple. Et on s'était arrêté au texte du Rav Moshe Chalfon HaKohen de Djerba, qui parle, qui vit cette époque et qui arrive à donner une signification divine à tous ces événements. C'est lui qui va dire la Hatzarat Balfour. Si vous devez un Makor, on ne sait pas, David Partouche du Machon Meir, le Makor, c'est le Rav Yehuda Kook, le Makor, c'est Rabbi Moshe Chalfon HaKohen. Ça, c'est pour des gens, des rabbins que vous connaissez. Eux ont comparé Hatzarat Balfour à Hatzarat Koresh. C'est-à-dire la déclaration de Balfour, ils l'ont dit, ça ressemblait à la Hatzarat Cyrus, la Hatzarat de Koresh, et il fallait monter en Eretz Israël. Juste pour continuer, ce texte-là qu'on a lu, qui rapportait la déclaration de San Remo, etc., au tout début, j'ai oublié de vous dire l'essentiel. Alors, c'est quoi l'essentiel? Il y a deux choses que je voulais reprendre par rapport à hier. On est toujours dans le texte de Rabbi Moshe Chalfon HaKohen. Il dit... Umikarov beyamenu ele, ofia bikir, vous l'avez pas, je vous le lis. Umikarov beyamenu ele, ofia bikir benu ish ram amaala. Il y a un homme de nos jours qui s'est levé, un homme ram amaala. Ram c'est haut, amaala la grandeur. Sa grandeur est très grande. Zar asechel. Zar, c'est quoi zar? Pur. Zar venaki. Zar venaki, pur, son intellect pur. Ok. Vechad arayon, avec une idée, un projet bien précis. Ok, si tu dis que Rabbi Moshe Chalfon HaKohen, Zatzal, Zia, c'est même plus Atzal, chez les Tunisiens, les Djerbiens, c'est Zia. Sroto Yagan Aleno. Amen. Je vous pose la question. Tu dis, Rabbi Moshe Kalfon HaKohen, il parle d'un homme, Ramamala. C'est un grand homme ou c'est un petit homme? Mais non, il vient te dire Ramamala. Un niveau très grand, une grandeur très grande. Zahasechel. Moi, ça me fait peur, Zahasechel. C'est à qui on peut dire Zahasechel? Zahasechel, c'est Moshe Rabbeinu. Zahasechel, qui lui permet tellement son esprit, il est limpide, qui lui permet de recevoir une prophétie. C'est-à-dire, quand on parle de Zahasechel, on fait référence à Moshe Rabbeinu. Une personne qui a un Sechel qui va directement émettre. Il n'est pas influencé par le Dimayon, par le Regesh. Zahasechel. Maintenant, Hadarayon, il a un projet unique, il ne va pas à droite, des fois, ah je veux faire ça, ah des fois je veux faire ça. Non, la personne elle est une dans son projet. À qui on pense? Eh bien on pense à un grand Rav, peut-être même à un prophète, un grand tzadik, etc. Maintenant accrochez-vous sur vos chaises, vous allez peut-être tomber, accrochez-vous fort. Deux points, ouvrez les guillemets, c'est comme ça marqué. De qui il parle? Binyamin, Théodore Herzl. Alors tu dis, mais c'est pas possible. Comment c'est possible une chose comme ça? Rabbi Moshe Kalfon, Ish Ramamal, Zaha Sechel, Vechadarayon, Binyamin, Theodor Herzl. Shmo, c'est ça son nom. Asher Amad al Darke Vechuke Amim, Vekir Kelifi Ruka Midinot, En le Ashbit ou le Batel Klalut Auma, Tie Ershetie. Viliot Uma Nachutz, Minyan, Marlusia, ou mise insi à rayon erbad, liot kol ish, abalistofev, betzel, a chevrationit, ou bechem tsuni kareye, mechelem franc, etc. C'est-à-dire, c'est lui qui a fait la fédération sioniste dans le but de créer l'État d'Israël. Ça, il le vit, ça, c'est l'époque. Maintenant, c'est très important, ça. Pourquoi? Parce que c'est facile aujourd'hui, 100 ans après Herzl, de dire oui, Herzl était comme ça, t'étais là-bas. Lui, il est à l'époque. Il y a une yane comme ça dans la halakha. Hein. Tu ne peux pas juger si tu n'étais pas là-bas. Les chachamim de l'époque, ils peuvent te dire qu'est-ce que c'était. Parce qu'ils n'ont pas de recul. Ils vivent le plein événement. Nous, 100 ans après, ouais, c'est un miracle, c'est pas un miracle. C'est ce qui s'est passé à Hanouka d'ailleurs, Agav. C'est-à-dire, le Bedin qui était à Hanouka, il peut comprendre l'importance de Hanouka. Nous, on ne peut pas se rappeler, tu sais, il y a eu une victoire extraordinaire, on va faire une fête. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Tu n'as pas vécu l'événement comme il s'est passé. Mais les Chachamim qui vivaient à cette époque, eux, ils peuvent dire si c'est un grand événement. Et sur ça, il faut remercier Hachem ou pas. Ce jour...
Justement, c'est pour cette génération à venir qui a eu de recul sur ce qui s'est passé. Quand on vit la chose, on ne peut pas... Franchement,
on voit les choses... Dans l'événement, par exemple, de... Comment ça s'appelle? Dans l'événement de la création de l'État d'Israël, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire, tu as tout à fait raison dans le sens où ça ne fait que grandir. Alors, on peut comprendre, au début, c'était petit. On a la moitié des restes d'Israël. 60, 70 ans plus tard, on a tout Israël, on a Yerushalayim, on a 6,5 millions de juifs. Avant, il y avait 600 000 juifs. Nachon. Mais dans un cas, par exemple, comme Hanouka, on est loin de ça. Et on reçoit, c'est pas qu'on reçoit plus l'influence, c'est qu'on a du mal à voir cet événement, parce qu'on n'est pas la continuité directe de cet événement. Alors là, ce qui va se passer chez les Chachamim, eux, ils vont te dire, et c'est les Chachamim, hein, c'est pas le peuple qui va parler. Bien sûr, c'est un impact. C'est un impact. Historiquement, il faudrait le prouver, mais au niveau de la Torah, au niveau de ce qu'on a fait, c'est sûr que c'est un impact. Mais il faut être super Chacham pour voir ça, pour sentir ça. Midinat Israël, il ne faut pas être Chacham. Tu vois à droite, à gauche, tu regardes les chiffres, tu regardes les gens, tu te balades en Israël, tu comprends tout de suite ce qui s'est passé. Ça, c'est, il ne faut pas avoir de trucs. Mais je veux te dire qu'au niveau de la Torah, les Chachamim qui étaient à l'époque, où je veux en venir? Je veux te dire tout de suite où je veux en venir. Mais des gens aujourd'hui, ils disent, ouais, la création de l'État d'Israël, il n'y a aucune valeur. Malassot, quoi faire? Tous les Rabbanim qui ont vécu la création de l'État d'Israël, ils ont vécu ce passage de pas d'État d'Israël avec État d'Israël, eux, ils se sont dit, c'est un miracle extraordinaire. C'est quoi le problème aujourd'hui? Il y a beaucoup de personnes, au nom de la Torah, au nom de la religion, au nom de Dieu, etc., au nom d'Hachem et Bechem Hachem, ils font ça. Et te disent, l'État d'Israël, ça n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. Où il n'y a aucune valeur de Kdusha, il n'y a aucune valeur de sainteté. C'est ça? Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ont oublié l'histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire. Ils pensaient que l'homme Israël, pendant 2000 ans, il était sur la plus belle... Il était aimé par les nations dans lesquelles il se trouvait, il était adoré, on les laissait étudier la Torah, on s'attachait à leurs tzitziot, rien qu'étudier la Torah, on vous apportera à manger, à boire, et à trucs. Ils ont totalement oublié l'histoire. En général, c'est des personnes qui ont totalement oublié l'histoire, ils ne connaissent pas l'histoire, on leur cache exprès l'histoire. mais des rabbanim qui ont vécu. Qu'est-ce que c'était la situation du Ham Israël avant la création de l'État d'Israël? Et qu'est-ce que c'était la situation du Ham Israël après la création de l'État d'Israël? Alors, c'est des personnes qui arrivent à voir qu'est-ce qui s'est passé. Sauf, comme dit Baba Salé, je ne sais pas si vous connaissez, Sidna Baba Salé, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, avant, on dépendait de la volonté des Arabes. Si on mourait ou si on vivait, c'est eux qui décidaient. On dépendait d'eux. Maintenant, bon, Hachem nous a donné notre liberté. Et nous, c'est nous qui décidons. Alors, tu dis, mais c'est qui a dit ça? C'est Herzl. C'est Jabotinsky. C'est Trumpeldor. Non, c'est Baba Salé. Baba Salé. C'est un homme de Torah qui voit ça. Parce qu'il a connu avant, il a connu après. Et en tant que Torah, il te dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y avait deux Bachorim qui étaient dans le bus avec Baba Salé. Baba Salé, il a pris le bus. Et je sais pas quel cave, quel numéro, peut-être 613 ou 26, des combinaisons d'HM, l'Odea. Il y avait deux Bachorim, il dit, ah, moi je ne veux pas aller à l'armée, Il voit que c'était des gens qui étaient à la yeshiva. Baba Salé dit, soit tu étudies sérieusement la yeshiva et ta place est la yeshiva. Mais si tu dis mal à la yeshiva, ta place est à l'armée. C'est une grande mitzva de défendre l'armée israélienne. C'est une plus grande mitzva. Beseda. Donc il parle de tout le talir, de tout le processus sioniste, le Rabbi Moshe Chalfon HaKohen. Et il raconte l'histoire que je vous dis avec le Rav Kook, qu'ils ont déclaré le truc de 100 mots. À la fin du discours qu'il a fait, c'était le 14 Sivan, c'était Shabbat, le 14 Sivan de l'année 1920, donc quelques jours après 100 mots. Qu'est-ce qu'il dit? Acharezé, accrochez-vous, aujourd'hui c'est dur. Après cela, après que le Rabbi Moshe Chalfon a fait sa dracha, c'était la dracha de Rabbi Moshe Chalfon, Sharu Akal Kadosh, ils ont chanté l'assemblée, Shir Nagila, non. Shir Habibi, non. Shir Ashurer Shira, non. Shir Atigva, ils ont chanté la Tigva. Shabbat, dans la Bet Knesset, Rabbi Moshe Chalfon, à Kohen. Vachar Karanu, Mina Metzar Karatia. Atsof Halel, ils ont pris Mina Metzar Karatia jusqu'à Yodou Lachem Kitov Kilo Rasbos, jusqu'à la fin du Halel. Ça c'était juste à San Remo. Jusque les Goïm nous ont dit le Ham Israël a le droit de revivre en Eretz Israël pour faire son état. Ils ont dit ensuite Alléluia Ode Hachem Becholevav Veot Karanu Nishmat Kolchai. Ils ont lu Nishmat Kolchai Vit Palalnu Minchat Shabbat. 1920. Et tout le monde est retourné chez lui, heureux. Et il espère la miséricorde d'Hachem. Odou l'Hachem qui tov, qui l'olam chazdo, asher qui emban ou apasouk, vav gamzol biotem, gégani Hachem et Rochem. C'est-à-dire le pasouk, comme il dit, que même quand on sera loin, le Kadosh Baruch Hu nous ramènera en Eretz Israël, etc. etc. Amen, Kenny Ratzon. Ça, c'est les rabbanim. Ça, c'est les rabbanim de Tzvon Africa. Il résume toute la pensée des rabbinim de Tzvon Africa. Comment ils voyaient tout ce talir prophétique, tout ce processus prophétique. Il a fait. Ça, c'était pour fermer par rapport à Tzarat Koresh. Maintenant, à Tzarat Koresh, tous les juifs, pas seulement les juifs de Djerba, même les juifs de Tunis et d'Algérie, du Maroc, montent en Eretz Israël. Ok. Maintenant, ça, c'était en 1920. Ceux qui ont pu monter, ils sont montés. Ceux qui ne pouvaient pas monter, ils n'ont pas pu monter. Et il y en a qui sont montés, que vous retrouvez ici au Mahon Mir, mais que nos parents, ils ont dit non, d'abord on va passer à Marseille pour pouvoir rester quelques temps, et ensuite on arrive en Eretz Israël. Et c'est seulement vous qui avez le mérite d'arriver en Eretz Israël. Et à l'époque de la Sarat Koresh, on a vu que qui monte en Eretz Israël? Daniel. Qui ne monte pas en Eretz Israël? Ezra. Qui monte en Eretz Israël? Mordechai Yehudi. Qui monte en Eretz Israël? Zerubbabel. Et ils arrivent en Eretz Israël. Alors regardez qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent en Eretz Israël. Makor 5. Regardez le numéro 5. Au Makor 5, vous avez la suite de Ezra. Ezra qui raconte justement tout ce retour d'Israël sur sa terre. Vaishmeu, ils ont entendu Tsare Yehuda ou Binyamin. Les Tsare. Tsare, c'est ceux qui font souffrir la Judée et la région de Binyamin. Aujourd'hui, tu peux appeler ça la Judée-Samarie. C'est-à-dire, grosso modo. Donc, je traduis en français d'aujourd'hui. Ils ont entendu les terroristes de Judée-Samarie qui venaient à Gola, que les enfants de l'exil, c'est-à-dire les juifs de l'exil, les juifs qui étaient en Babylonie, Bonim, Echal, Lachem et Loke Israël, reconstruisent le Héral, c'est-à-dire le Beth Amikdash, pour Yudke Vavke, le Dieu d'Israël. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils entendent? Les Goïm qui étaient en Eretz Israël, on a dit qu'ils s'appelaient les Koutim. Il y avait des Shomronim, les Koutim, il y en a qui disent que les Koutim sont devenus les Shomronim, les Samaritains. En tout cas, c'était des Goïm qui étaient là pendant 70 ans et même avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait personne. Sanhérib les avait fait venir sur la terre d'Israël quand il a fait disperser les civilisations. Et eux, ils se sont installés en Eretz Israël. Est-ce qu'ils ont développé Eretz Israël? Pas spécialement. Là où ils ont habité, ils ont continué à habiter pendant 70 ans. Et un beau jour, ils découvrent que les Juifs reviennent en Eretz Israël. On les appelle les Tsarei Yehuda Obinani. Alors comment ils vont réagir? Très simplement. Pasuk Bet, je l'ai effacé, parce qu'il était très long. Et à chaque année, je regrette de l'avoir effacé. Parce que là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils viennent se présenter, ces mêmes Goïm, devant Zerubbabel, qui était le représentant de la Alia après les 70 ans d'exil de Babylone. Et ces Goïm proposent de construire ensemble le Beth Amikdash. Venons traduire dans le langage d'aujourd'hui. Venez, nous allons construire ensemble l'État hébreu. L'État de double nationalité. Ok? C'est ce qu'ils proposent les Goïm de l'époque, il y a 2500 ans. Alors regardez la réponse de Zerubbabel. Vayomer lahem Zerubbabel. Zerubbabel, c'est lui qui est la tête des Juifs, il fait partie du Sanhedrin. Ve Yeshua, et Yeshua aussi. Ushar Rashéavot, et le reste des chefs de famille. Les Israël, donc qui appartiennent à Israël. Qu'est-ce qu'ils leur répondent, les Juifs? Lo lachem, c'est pas à vous. Va là nous livnot baïd l'Elohenu. Mais c'est à nous qu'on a demandé de construire une maison pour notre Dieu. Qui a nachnu yacha nivne. Ensemble, nous les Juifs, nous allons construire. L'Hachem et l'Oké Israël. Kacher tivanu amener Koresh menar paras. Comme l'a ordonné Koresh, roi de Perse. Alors c'est quoi le problème? Je veux dire tout de suite c'est quoi le problème. Qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? T'as des goïms qui viennent. Tu dis viens on fait ensemble. Viens on fait l'été ensemble. Viens on fait le temple ensemble. Qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? Mais non, c'est notre Dieu qui nous a ordonné à nous de lui construire un Beth Amikdash. Et c'est pour ça que Hachem nous a fait revenir en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ils disent? Balfour. C'est Balfour qui nous a dit de revenir en Israël. C'est l'ONU qui nous a dit de revenir en Israël. Comprenez l'erreur? Ils disent pas au nom d'Hachem, regardez comme ça se répète. L'Olachem va là nous livnot, c'est-à-dire pas à vous, mais à nous. Mais qui t'a ordonné de construire? Qui t'a permis de construire? Alors regardez, Kacher Tivanu Ameler à Koresh Meler Paras, comme nous l'a ordonné Koresh, roi de Perse. C'est comme aujourd'hui, tu as dit aux Israéliens, pourquoi vous êtes retourné en Eretz Israël? Parce que l'ONU, elle a accepté. Au nom de l'ONU, on est venu ici. Mais ça, c'est la première faiblesse. C'est au nom du Tanakh qu'on est revenu en Eretz Israël. C'est au nom d'Hachem qu'on est revenu en Eretz Israël. C'est parce que ça fait 2000 ans que les Romains sont venus en Eretz Israël, ils nous ont exilés dans tous les mondes, dans toutes les nations du monde. Et un beau jour, on peut revenir en Eretz Israël. Un beau jour, on peut revenir dans notre pays. Ça, c'est la première des choses quand un représentant de l'État d'Israël, il parle à l'ONU, c'est qu'il sort le Tanar comme David Ben-Gurion, il dit, on est revenu par la force du Tanar, pas par l'ONU, ni par la SDN, ni par Balfour, ni par Koresh. On a besoin du signal de Koresh, ça oui. On a besoin de l'accord. Mais le droit de revenir, l'appartenance à Eretz Israël, ça ne dépend pas des Goïm. Ça ne dépend ni de Koresh, ni de Balfour, ni de personne. Seulement d'Hachem. Et tant qu'on n'arrive pas à ça, on n'arrivera pas. Ken? Vous voulez? Non. Pas de question. Il y a fait. Pasuk Dalet. Quand tu retournes en Eretz Israël, et que les Goïm, tu leur dis clairement qu'ils n'ont rien à faire ici, c'est à nous de construire le Beth Amikdash. C'est à nous de construire de nouveau notre pays. Qu'est-ce que vont faire les Goïms? Eh bien, ils vont pas se laisser faire. Ils vont pas se laisser faire. Alors, regardez. Regardez ça, il y a 2500 ans. C'est pas shoot. Incroyable. Chaque fois que je le relis, je dis, c'est pas possible. Regardez, Pasuk Dalet. Vaï am aaret. Et ce fut le peuple de la terre. Le peuple de la terre, on fait allusion aux Koutim. Aux Goïms. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils ont vu que les Juifs n'ont pas accepté de les faire participer à la reconstruction du pays. Merapim yede am Yehuda. Merapim, ça vient du mot rafé. Rafé, ça veut dire affaiblir. Merapim, ils affaiblissent les mains du peuple de Judée. Comment on fait pour affaiblir? Ben, il y a d'autres textes dans Ezra et Néhémia qui racontent qu'on tient d'une main les pierres pour construire une muraille autour de Jérusalem Et de l'autre main, on tient hein, le tabor. On tient hein, le M16, on tient le Uzi pour se protéger. Pourquoi? Parce qu'il y a des guerres. Donc, Merapim Yedeam Yehuda, c'est-à-dire, première des choses, ils font des guerres. Maintenant, est-ce que vous croyez que les Arabes, les Koutim, quand ils font des guerres contre Israël pour voler notre terre, ça va nous empêcher de construire notre pays? Non. Et ça, les ennemis, ils comprennent ça. Donc, ils voient que les guerres, ça ne marche pas. Ils voient que la guerre d'indépendance contre les Arabes, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une autre guerre. 1956, c'est la guerre d'indépendance. 1956, c'est la guerre du canal de Suez. Ça ne marche pas non plus. Ils font la guerre des 6 jours. Ça ne marche pas non plus. Ils font la guerre de Kippour, 73. Ça ne marche pas non plus. Ils font la guerre du Liban, 82. Ça ne marche pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ben, regardez, c'est marqué ici. Vahalim otam livnot. Vahalim behala. Behala, c'est la terreur. Ils font peur. Les goyim, ils arrêtent de faire des guerres. Ils commencent à faire du terrorisme. 1987, début d'une intifada. On va faire du terrorisme. 1987, 1988, 1989, 1992, ils kidnappent des enfants, des écoles, les bombes dans les bus, etc. Ça ne marche pas le terrorisme. C'est pas à cause du terrorisme qu'on quittera notre pays. Alors qu'est-ce qu'ils font? Hé, hey, qu'est-ce qu'on fait? La guerre, ça ne marche pas. Le terrorisme, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'ils décident de faire pour faire faiblir le Ham Israël? Non, simulation contre 6000 personnes. On va faire la politique, les traités de paix. 1993 ou 1992, les traités de Madrid, où on oblige Shamir à venir commencer des traités de paix face à Ashraf, face à l'organisation de l'OLP, dirigée par Yasser Arafat, Yimar Shemo Veshem Zichro, pour pouvoir commencer à faire des traités de paix. Alors regardez qu'est-ce qui se passe. Hé, hey, c'est marqué ici. Vesochrim. Et ils payent. Socher, Samer, Sin, Liskor, Maskoret, ils payent. Aléem, pour eux, c'est méchant là. Yoatsim, c'est quoi Yoatsim? Des conseillers, Yoetz. Les affaires à Satam, pour détruire leurs conseils, leurs projectionnistes. Kol Yeme Koresh, pendant toute la période de Cyrus. Cyrus, lui, qui a déclaré qu'il faut que les Juifs reconstruisent leur temple. Ben, il y a des politiciens, des conseillers, des diplomates palestiniens qui viennent chez Koresh pour l'influencer, pour lui dire « Non, il faut arrêter le projectionniste !» Ve'ad malchut Dariavesh me'ayar parash. Et ça, ça va durer, cette influence politique, ça va durer jusqu'à Darius II. Maintenant, regardez, c'est ça le secret. Ube malchut Achashverosh, et au début de la royauté de Achashverosh, Bitrilat Malchuto, début de sa royauté, Kadvu Sitna. Ils ont écrit une lettre satanique. Sitna. Dénonçant à Yoshvei Yehuda et Yerushalayim, dénonçant les habitants de Judée et de Yerushalayim. Ça va? Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez le Makor 1. Le Makor 1, c'est le début de la Megillah. Vahi bime Achashverosh. Vahi bime Achashverosh. Ce fut bime. Au temps de, au jour de Achashverosh. Ou Achashverosh, Amolech, Modou, Vatkouch. La Gemara dans Maseret Megillah, la fameuse phrase connue. À chaque fois qu'il y a marqué Vahi, dit la Gemara, c'est triste. Et à chaque fois qu'on marque Vehaya, c'est pour annoncer un événement heureux. La Gemara pose la question, Vayomer Elohim Yehior. Vahior. Il y a marqué, Hachem, il a dit que la lumière soit, la lumière fut. La lumière fut, c'est marqué Vahi, or. C'est un événement heureux ou malheureux? Réponse de la Gemara, non, c'est un événement heureux. Alors sache qu'à chaque fois qu'il y a marqué le mot Vahi, c'est pour soit un événement bon ou soit un événement mauvais. Par contre, à chaque fois qu'il y a marqué Vahi Bimé, ça c'est tout le temps un événement malheureux. Donc dans chaque traduction, quand vous voyez le mot Vahi Bimé, c'est pas ce fut au jour 2, et là c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut dire? Et malheureusement, ce fut l'époque d'Achashverosh. Maintenant la Gemara se pose la question, c'est quoi? Qu'est-ce qui est malheureux dans l'époque d'Achashverosh? Très simple. Achashverosh a arrêté la construction en Judée, Samarie et surtout la construction du Beth Amikdash. Achashverosh, dit la Gemara, ou Archelrosh. C'est quoi Archelrosh? Le frère de la tête. La tête, c'est Nebuchadnezzar. Lui, il a détruit le Beth Amikdash. Achashverosh, il a arrêté la construction du Beth Amikdash. Mais pourquoi il a arrêté la construction du second Beth Amikdash? À cause de la sitna, de cette dénonciation des Shomronim ou des Koutim qui sont venus chez lui et qui ont dénoncé le projet sioniste et qu'il fallait arrêter tout de suite le projet sioniste. Mais qui c'est ces gens-là? Regardez ma cour 6. Rashi à la Megillah. Aseret ben Aman, les 10 fils d'Aman. Rashi nous dit, Raiti beseder olam. J'ai vu dans le Seder Olam, qui est l'histoire du Israël. Ces 10 fils d'Aman, Elo Asara Shekadvu Sitna Yehuda Yerushalayim. C'est ces 10 fils d'Aman qu'eux ont écrit la Sitna pour empêcher la reconstruction du second temple. Comme Shekadvu Sefer Ezra, comme c'est marqué dans le Sefer d'Ezra, ou Bemachut Achashverosh, ou Betrilat Malchuto, Kadvu Sitna, Al Yoshve Yehuda Yerushalayim. Umaya Sitna, maintenant c'est quoi cette Sitna, cette satanisation? Levatel Aoli Minagola. D'annuler ceux qui vont monter de l'exil, c'est-à-dire de retour, d'annuler l'alia, d'empêcher l'alia. Bimé Koresh, Yitrilou, Livnot et Abaït. À l'époque de Koresh, où ils ont commencé à construire l'Abaït, le Beth Amidash. Ils veulent arrêter l'alia. Ils veulent arrêter la reconstruction du pays. Ils veulent arrêter la reconstruction du Beth Amidash. Ça, c'est Vahi Bimé Achashverosh. Achashverosh, Racha, qui empêche le retour d'Israël sur cette terre. Maintenant, regardez-moi un Midrash qui existe depuis 2600 ans. Prenez le Makor. Posez des questions, sinon on ne va pas s'en sortir. Tout est clair, là? Maintenant, entre nous, c'est-à-dire sans truc. C'est pas fou, ça? C'est fou de chez fou. Vous savez, c'est quoi le problème? C'est que quand une personne elle rentre à la Knesset, elle ne connaît pas ça. Elle ne connaît pas... C'est quoi, ça? C'est pas les Mekor du Machon Mir. C'est le Mekor du Ham Israël. Elle ne connaît pas son histoire. Toute personne qui va à la Knesset, la première des choses qu'il doit savoir, c'est son histoire. Pourquoi? Parce que l'histoire, ça revient. L'histoire, ça revient. Dans l'âme d'Israël, ça revient. Pas dans toutes les nations. Les nations, elles commencent et elles tombent. Nous, c'est montée et descente, montée et descente. L'histoire du âme d'Israël revient. Si on savait ça, il y a 60 ans, si on savait ça il y a 100 ans, on serait aujourd'hui 13 millions, 14 millions, 16, 17, 18 millions de juifs en Israël. Non, voilà. Seulement le Rav Kook savait. Parce qu'ils n'étudiaient pas le Tana. Ils connaissaient pas. Ils étudiaient pas ça. On étudie le grand monde de la Torah. Il étudie la Gemara. Et c'est pas de la Gemara que tu peux étudier le Tana. Ils ne se sont pas occupés de ces questions. Ils sont occupés uniquement des questions, et je comprends pourquoi. Mais ils sont occupés uniquement des questions d'alaha concrètes par rapport au journalier de l'homme. Est-ce que j'ai un poulet? Comprends la personne, elle n'avait pas quoi de manger. Elle arrive, elle a un poulet devant elle. Il est cachère. Je peux voir la shrita? Tout le hinyan du Ham Israël, des rabbins qui étudient la Torah, ils voulaient aider le Ham Israël. Ils n'avaient pas ce recul. Autour d'une... C'est facile, nous. Nous, on est là, on marche en Meir, Yerushalayim, il fait beau en plein hiver, on arrive, on s'est levé à la tefila, petit déjeuner israélien extraordinaire. Je fais la pub en même temps. T'arrives, tu retournes d'un café, voilà, là, ils ont empêché la truc, et ensuite, il va y avoir Aman qui va faire la Shoah, tout revient. On a le temps, il n'y a rien qui presse. On est bien, on a du recul, c'est extraordinaire. Mais attends, les Juifs, pendant 2000 ans, quand ils étudient la Torah et ils devaient travailler 13 heures de temps par jour parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Et il y avait la peur des goïms, il y a peur des trucs. T'as pas ce recul comme ça où tu peux commencer à réfléchir sur l'avenir, sur voir le visage global. Il y en a qui ont réussi à faire ça. Mais c'était des grands rabbins. Pas tout le monde arrive à faire ça. Le mainstream des juifs, ce qu'ils pouvaient étudier déjà, c'est extraordinaire. Prendre du recul par rapport à tout ça, analyser les prophéties de Daniel et les écrits du Maharal de Prague. Ils n'avaient pas le temps pour ça. Ils allaient au plus pressé. Ils avaient par rapport à ce que l'âme Israël avait besoin. Ken.
Il y a des textes qui circulent dans certaines Yeshivot sur Ratzel. Il semblerait qu'il limite des propos, on va dire, nazis, quoi. Enfin, chacun dit ça.
D'accord.
Donc, c'est quoi ces textes
C'est des textes de Herzl. Herzl, je t'explique. Herzl, il y a eu un consensus. D'abord, il faut savoir. Il y a un consensus secret. Ils se sont jamais assis dans un hôtel entre le monde orthodoxe et le monde anti-orthodoxe, c'est-à-dire le monde laïque. Il s'appelle, venons, soit clair, le monde sioniste laïque et le monde orthodoxe du monde des yeshivot, ils ont un accord secret. Faire de Herzl un anti-religieux. un assimilé, un anti-Torah, un loin de Dieu, un loin de ses mitzvot, un loin de tout. Pourquoi ? Parce que ça arrange tout le monde. Ça arrange les sionistes qui te disent l'État, c'est comme Herzl, sans Torah, sans un goutte de spiritualité de Torah. Et ça arrange les orthodoxes qui disent cet État, il n'y a rien à voir avec la Torah, puisque celui qui a fait cet État, c'était une personne totalement anti-religieuse. Et ça arrange les uns comme les autres. Sur ça, ils sont d'accord. Vient une personne qui dérange tout. Vient le Rav Kook, le père, vient le fils, Rav Yehuda, et vient tous les rabbinis après ça, et viennent tous les rabbinis de Tzfon Afrika, d'Afrique du Nord. Vous connaissez la ville de Tlemcen ? Il y a des gens qui viennent de Tlemcen ? Vous ne venez pas ? C'est une ville d'Algérie, mais très proche de la frontière du Maroc. Il y a beaucoup de Marocains qui sont passés à Tlemcen. Tlemcen, c'est une grande ville, de grands tzadikim. Maintenant, à Tlemcen, à l'Agba Omer, qu'est-ce qu'on fait à Tlemcen ? Ce qu'on faisait en France. Qu'est-ce qu'on fait en France le jour de l'Agba Omer ? On n'allume pas le binyan comme ici en Eretz Israël, on allume des feux énormes et les pompiers, ils sont là toute la journée en train de courir pour éteindre les feux. Qu'est-ce qu'on faisait à la Beit HaKnesset ? Les bougies. Non ? On n'a pas vécu la même... Qu'est-ce que vous faites l'Agba Omer en France ? Non, ça c'est ici ça. On fait une sortie. Vous allumez, le soir de l'Agba Omer, vous allumez pas les nérotes, les veilleuses en nom des tzadikim ? Ça c'est en Israël. Non, l'Agba Omer, vous faites pas ça le Beit HaKnesset ? La bougie pour Rabbi Meir Balanez, la veilleuse pour Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Bon, bref. Ils sont tous venus Ashkenaz, c'est l'otov. Faites ça, c'est connu. Yoshua. C'est ça, on arrête Israël, les Médoros, ça n'a jamais existé. Nous, on a fait des petits feux, des petites veilleuses. Ok. Ceux qui écoutent sur Internet et qui connaissent ce minag, ils doivent renforcer ce minag. On allume des veilleuses avec de l'eau, de l'huile d'olive, une bougie, et on vend les bougies en souvenir du grand tzadik. Les grands tzadikim. Ok, les grands tzadikim. Maintenant, à Tlemcen, ils allumaient une bougie pour Herzl. Ils allumaient une bougie pour Herzl. Quand on a dit ça à un Talmid Chacham, il a dit non, mais il ne savait pas, il ne comprenait rien. Mais ça, tu dis un truc comme ça, tu peux dire ça à tout le monde, mais pas à Rabbi Moshe Khalfon. Tu vas pas me dire que Moshe Khalfon, non, il ne savait pas, il ne comprenait pas. Il ne savait pas. Lui, Birkla, il a vécu la même époque. Tu comprends ce que je veux dire ? Et là, Herzl, c'est comme ça. Herzl. Non, j'ai pas dit que Herzl était religieux. J'ai pas dit qu'il était pratiquant, mais je veux te dire que Herzl, il vit en petit, en micro, ce que la nation vit en macro. Facile. Herzl, il vit dans sa vie personnelle ce que la société, la nation d'Israël ou les juifs du monde entier vivent. Petit à petit, un retour vers les sources. Petit à petit, un retour vers les sources. Et ce retour vers la source, ça passe par un retour vers l'identification, son identité, son attachement à sa nation et à sa terre. Et c'est ça qui vit Herzl. Herzl en a voulu en faire un assimilé totalement. Parce qu'il écrit, dans un de ses écrits, il écrit, on passera tous, pas nous, parce qu'on ne peut pas devenir chrétien. Ils ne vont pas nous accepter, les chrétiens. On passera tous nos enfants, ce qu'il diffuse. On passera tous nos enfants devant la cathédrale de Vienne. Et ils seront baptisés, nos enfants, et ils deviendront de vrais chrétiens. Qui c'est qui a écrit ça ? Herzl. Herzl, il a écrit ça. Et tu tombes de ta chaise, tu dis, c'est qui ce type ? Et là, qu'est-ce qu'il voulait ? Tu demandes, Herzl, pourquoi tu fais ça ? Je fais pour ça parce que je vois les juifs souffrir. Les juifs, ils souffrent, on les tue parce qu'on les prend pour des personnes différentes. Alors le mieux, c'est qu'ils soient comme tout le monde. Nous, on restera toujours différents. Mais nos enfants, la nouvelle génération, il faut qu'ils totalement s'assimilent. Mais il sort de ça, bien, il sort de ça. Il veut plus ça. Après, il comprend que c'est pas comme ça. Il comprend la spécificité du peuple Israël. Il se balade dans les rues de Vienne et en Allemagne. Et il voit, il rentre chez lui, il écrit dans son journal : je vois encore ces graffitis sur les murs. Je ne peux plus supporter ça. C'était quoi les graffitis ? Il n'y avait pas marqué à mort les juifs. Il n'y avait pas marqué les juifs dehors. Il y avait même marqué dans les rues de Vienne : il y avait marqué YEP. Y-E-P. Y-E-P. Et tu vois, on a l'impression que lui est totalement assimilé. C'est quoi YEP ? YEP, c'est Y, c'est Yerusalima, Jérusalem en latin. E, c'est Est, et E-S-T, et P, c'est Perdita. Jérusalem est perdue. Il y a 100 ans. Dans les rues de Vienne, on ne disait pas à mort les Youpins. Peut-être à la même de là, les Youpins, je ne sais pas. À mort les Juifs, dehors les Juifs. Non, on disait Yep, Jérusalem est perdue. Et ça, ça le rendrait fou, Herzl. Il dit Jérusalem n'est pas perdue. Il savait parler de l'ivrite. Il a fait sa bar mitzvah alors qu'il était dans une époque. Il était dans une époque où il y avait énormément d'assimilation. Il a fait sa bar mitzvah dans une synagogue orthodoxe. Orthodoxe. Il a lu l'Haftara en ivrite. Ça veut rien dire, mais quand tu me présentes un type totalement assimilé, tu prends les gens totalement assimilés en France, ni l'Haftara, ils ne savent même pas ce que c'est, ils ne savent même pas la lire. Son grand-père, c'était le Chaliar Tzibour. Quand tu dis Chaliar Tzibour chez les Ashkenazim, c'était un rave. Il était un rave de Beth Knesset, son grand-père. Et ce rave-là, tout peut rien dire à Denis, écoute l'histoire. Écoute, c'est dans l'Okaraklum, t'es contre Herzl. En Libaya. Alors je te dis, il a entendu toute sa vie, quand il était petit, il allait à Beth Knesset comme une personne qui va avec son grand-père à la Beth Knesset, le Rav Yehuda El-Kalai, le Rav Yehuda El-Kalai qui parlait du matin jusqu'au soir sur le retour d'Israël sur sa terre. Et Herzl, petit à petit, il te dit, on ne peut pas construire notre Ouma bli Emunata. La Ouma, la nation, elle ne peut pas être sans son Emuna. Et il a eu tout un talir comme ça, un talir de retour. Maintenant, de faire Herzl, le Meller Hamashiach, c'est le grand sadique, je n'ai pas dit ça. Mais de faire Herzl assimilé, qui veut totalement s'assimiler aux nations et qui compte la Torah, ça aussi c'est faux. Et là, c'est le Herzl entre eux. Il y a une nouvelle, je vous conseille de lire, la relecture du journal de Herzl de George Weiss. C'est un juif de France qui est monté en Eretz Israël, George Weiss, qui a écrit un livre et qui reprend tous les écrits de Herzl et qui t'explique qu'on nous a menti. À l'université, on nous ment pour nous empêcher de penser que Herzl, il est laïque, entièrement laïque. Et dans les yeshivot, on nous ment parce qu'on a peur. George Weitz. W-E-I-S-C-Z, je crois. Et c'est la relecture d'Herzl dans le journal Haaretz en Israël. Le journal Haaretz, c'est un journal de tendance très à gauche. Il a critiqué, il y a 2-3 ans, il a critiqué Binyamin Netanyahu. Oui, Binyamin Netanyahu, qui se prend pour le nouveau Herzl, d'après le doctorat de George Weiss. C'est-à-dire qu'on dit que Binyamin Netanyahu, il a lu ça parce qu'il a été traduit ce livre. Il a été écrit en français, il a été traduit en hébreu. Ou à Fourche, il a d'abord été écrit en hébreu, ensuite il a été traduit en français. Et Binyamin Netanyahu a lu ça. Herzl, c'était une personne qui était Israël. Et tout ce qu'il a fait, vous savez pourquoi il est mort? Il est mort parce qu'on n'a pas eu l'Ouganda. Vous connaissez cette histoire? Maintenant, regardez, moi je vais vous faire participer, ne jugez pas. Essayez de faire comme moi, de ne pas juger. C'est dur, mais essayez de ne pas juger. Herzl, lui, il écrit dans ses journaux qu'il voit une catastrophe pour les Juifs de l'Europe. Les catastrophes qu'il voit pour les Juifs de l'Europe, quand on est en 1904, tu sais, ben 40 ans plus tard, ben tu sais, ça s'appelle la Shoah. Ou 35 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, tu sais que ça s'appelle la Shoah. C'est-à-dire? Maintenant, imagine que toi, t'es Herzl. Que toi, je sais pas, tu travailles le matin, tu arrives à comprendre, d'après les événements, tu ressens la rue, tu te rappelles Dreyfus qui crie à mort les Juifs, et pas à mort Dreyfus. Quel rapport, c'est un traître. À mort le traître. Non, il crie à mort les Juifs. Et ça, ça l'a déconcerté, Herzl. Tu dis, c'est pas possible une chose comme ça. Et il voit, il arrive à comprendre, d'après son analyse, qu'il va avoir une catastrophe en Europe. Il voit les 7 millions de Juifs qui vont mourir pendant la Shoah. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le plus rapidement possible ramener tous les Juifs en Palestine. Maintenant, il voit que les nations du monde, la Palestine ne veut pas te la donner parce que c'est compliqué. Là, les Arabes, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a encore le sultan. Il n'y a pas les Arabes. Il y a le sultan. C'est l'Empire Ottoman. On ne peut pas te le donner. Mais on te donne l'Ouganda. Ou même, tu sais quoi? On te donne le pôle Nord. On te donne le pôle Nord. T'es Herzl. Tu vois la Shoah. On te donne le pôle Nord. Et pas la Palestine. Et pas Israël. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas au pôle Nord. Tu vas au pôle Nord. Parce que tu veux sauver les Juifs. Parce qu'il sait que ça brûle. L'Europe va brûler. Et là, la Palestine, l'Empire Ottoman, personne t'aide. Et hein, ils étaient là depuis 500 ans, je sais pas. Nahon, il lui manque. Alors bien sûr, il lui manque ce recul de Emouna, cette grandeur d'Emouna qu'ont les grands rabbinis. Oui, mais les grands rabbinis, ils n'ont pas vu la Shoah. C'est dur ce que je dis. C'est pas de moi. C'est des rabbinim qui étaient là-bas pendant la Shoah et qui écrivent, on n'a pas vu. T'as un Herzl pas religieux qui voit la Shoah? T'as des grands tzadikim qui ne voient pas la Shoah? Qui tu suis? C'est affreux comme question. C'est affreux comme question. comme on dit, jusqu'à la Shoah, tu pouvais parler. Eretz Israël, pas Eretz Israël, Eretz Israël, pas Eretz Israël, sioniste, pas sioniste, sioniste, pas sioniste, sioniste. Après la Shoah, ça y est, il n'y a plus de questions. Là. Une personne qui, après la Shoah, se pose encore des questions, c'est qu'il ne voit pas l'histoire, il est totalement aveugle. Aveugle. Et c'est pour ça qu'il prie tous les jours, trois fois par jour, Vetechezena, Enenu, Beshufra, Lektion, Merchami. Vetechezena, ça veut dire quoi? Non. Comment t'as dit? Non, Vetechezena, Enenu. Fais-nous voir. Parce que c'est dur de voir. Il y aura des moments que je n'arriverai pas à voir. Fais-nous voir ton retour à Tzion. Si tu pries ça tous les jours, ça veut dire Hachem, il va voir l'époque, il va venir, je ne vais pas la voir. Fais que Dieu fasse, qu'Hachem fasse, que je puisse la voir. Ton retour de la Shrina. Ça fait tellement, il va y avoir des communistes qui vont venir, il va y avoir le sionisme qui vont venir, il va y avoir les fascistes qui vont venir. Je n'ai rien à voir du tout. Fais-moi voir le retour de ta Shrina à Tzion. Il y a des gens qui ont vu, il y a des gens qui n'ont pas vu. Si encore aujourd'hui, après ce qui s'est passé, tu ne vois pas, problème. Problème. Non. Comment on peut voir? On peut ne pas voir si tu restes égoïste. Si tu restes tourné vers toi-même, oh, tu ne peux pas voir. Tu fais le compte. Où est-ce que je gagne le plus de mitzvot? Mais tu ne vois pas l'histoire. Le cours de l'histoire, comment Akadosh Baruch Hu t'emmène en Eretz Israël, il nous a arraché de la galoute. Il nous a arraché de la galoute. Si tu ne vois pas ça, qu'est-ce que tu veux? Une personne, elle se réveille le matin, elle verra la Magan David dans le ciel, il y a marqué Tarzor Abaita, rentre à la maison, rentre chez toi, il n'y croira pas. Le ciel s'ouvrira, Moshe descendra, Avram Avinu descendra, etc. Il te dit non, c'est le Satan, il est très fort. Alors tu vas lui dire, mais attends, il t'a montré Moshe. Et au Sinaï, il ne nous a pas montré le Satan, Moshe qui était mort. En sauf la Terutzim. Il n'y a pas de fin pour essayer tout le temps d'éviter de te rencontrer face au Emet. Le problème, c'est quand ça se réalise dans l'histoire. Que le Emet, il est en face de toi, alors ça fait très mal. Pas ça fait très mal, il n'y a pas de mot pour ça. La Shoah, il n'y a pas de mot pour ça. Si on avait étudié ça avant la Shoah, comme le Rav Kook qui connaissait cette sugya avant la Shoah, et que le Rav Kook, c'est le seul qui a crié haut et fort, partez, partez, n'attendez pas le Shofar HaKatan. Shofar HaKatan, c'est Amalek, Shofar HaKatan, c'est Haman, Shofar HaKatan, c'est Hitler. En 1933, il dit ça. À part le Rav Kook, je ne sais pas. À part le Rav Kook, je ne sais pas. Lui, il l'a vu. Lui, il a expliqué. Et c'est pour ça que son prix. C'est pour ça qu'on sait. Moi, je vais chez un médecin, parce qu'une personne qui a vu, une personne qui connaît, une personne qui a étudié, le spécialiste dans cette chose-là. Une personne qui va dire, non, dans cette opération, je vais voir mon Rav. Encore la Kavod, il ne sera pas. Il ne sera pas soigné. Nous allons voir les spécialistes du sujet. Regardez au Macor 37. Non. Ok. Il n'y a aucun rap qui a vu, qui a pris la Shoah par la Hendrick, il y a énorme. Par exemple, il y a des cérémonies, il y a des clés autour d'une table. Macor 37. Shira Shirim Rabba. Le Rav Etsraïm, il voulait monter en Eretz Israël. Le Rav Etsraïm, on l'a empêché de monter en Eretz Israël. C'est-à-dire, mais c'est Barour, il a commencé à acheter une maison à Petah Tikva. Il voulait monter en Eretz Israël. 37. Shira Shirim Rabba. Attendez. Waouh, il est trop tard. Il est trop tard, il y a le Mifran aujourd'hui de Gumara. Ok, venez, on regarde un petit peu pour demain. C'est Beseder. Lokara Kloum. Demain, on continuera ça. Là, on a fait beaucoup. Kol Tov. Prochain show.